France Inter, le 7-9.
Et on ouvre le prochain quart d'heure au programme jusqu'à 9h, l'édito M avec Sonia De Villers. Bonjour.
Bonjour à tous. RTL quitte la rue Bayard.
Les bobineaux de Thomas Legrand.
Eh bien, on va parler du mensonge en politique. Tout le monde ne le maîtrise pas.
Et comme tous les vendredis, juste avant 9h, on retrouvera l'ami François Morel.
Les partis changent de nom.
Ah oui.
Oui.
À tout à l'heure. D'abord, la revue de presse avec Claude Askolovitch. Claude, ce matin, vous nous parlez d'une élection.
Une élection, mais pas celle dont nous parlons fort élégamment depuis ce matin. Donc, non pas la Russie, mais un peu plus à l'ouest, aux Pays-Bas, à Rotterdam, où Marianne nous raconte une élection municipale qui fait penser au livre de Michel Houellebecq, Soumission. Soumission, vous vous souvenez, c'était l'histoire d'un islamiste soutenu par la gauche qui remportait la présidentielle contre Marine Le Pen. Eh bien, à Rotterdam, un parti musulman qui s'appelle Nida veut prendre la ville et pour ce faire a passé alliance avec tous les partis de gauche. En face, campent des populistes et une droite violemment anti-musulmane. Voilà ce qu'on entend dans la campagne et qu'on lit dans Marianne. Nous voulons que les gens se sentent à Rotterdam, pas Istanbul. L'Europe doit rester blanche. Il faut fermer toutes les mosquées. En face, Nida demande que les musulmans se serrent les coudes. Voilà donc le paysage politique d'une grande ville européenne, cosmopolite et en tension, nationalisme contre communautarisme, nous dit Marianne. Et l'exemple de Rotterdam pourrait faire école aux Pays-Bas. Sauf que, et c'est très intéressant, et c'est ce qu'on appelle la malchance des journaux, qui souvent bouclent, c'est-à-dire en terminent avec leur fabrication, alors que l'actualité continue. Et depuis la fabrication du reportage de Marianne, il s'est passé quelque chose à Rotterdam. L'union des musulmans et des gauches s'est brisée. On a retrouvé un tweet de Nida, datant de 2014, qui disait que l'État d'Israël et Daesh, c'était la même chose. Alors, écologistes et travaillistes ont rompu l'alliance. Vous pouvez lire ça dans la presse néerlandaise. Elle est en ligne. Ik verstaan, je comprends un peu. Mais le reportage de Marianne reste passionnant pour les lignes de force idéologique qu'il dessine, des tentations et des impossibilités encore provisoires en comparaison l'élection annoncée de Vladimir Poutine est d'une simplicité biblique.
Mais la Russie inquiète la presse, Claude.
La Russie dont les espions empoisonnent et le Parisien annonce que la guerre froide est revenue et donne la parole au ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson. Je le cite, Johnson, dans le Parisien. J'établis un rapport direct entre l'indulgence manifestée par Poutine à l'égard des atrocités perpétrées par Assad en Syrie et le fait que l'État russe n'a pas hésité à employer une arme chimique sur le sol britannique. C'est le chef de la diplomatie du Royaume-Uni qui parle ainsi. L'actualité a un drôle de parfum. Marianne, installée à Sahune, Poutine donc, le Turc Erdogan, l'Égyptien Sisi, l'Hongrois Orban et le Chinois Xi Jinping. Et titre du journal, ces despotes adorés. Et oui, les peuples soutiennent les despotes. Vous lirez dans M, le magazine du Monde, un article très triste sur des exilés. Ces Russes qui ont fui la Russie de Poutine et vivent désormais en Ukraine. On croise ainsi à Kiev une classe moyenne écœurée par la corruption et la violence. On voit aussi un homme brave, Ilya Ponomarev. Il fut en 2014 le seul député russe à voter contre l'annexion de la Crimée. Il ne vit plus chez lui, il est à Kiev. Vivre ici, dit-il, c'est une manière d'être au plus près du front, de me battre encore pour mon pays. Ce sont des scènes connues quand les vaincus des dictatures viennent dans nos contrées encore libres et pourtant menacées. L'Obs raconte cette semaine Yad Agrali. C'est l'ennemi de la France, le chef des djihadistes Touareg qui écument le nord du Mali et détiennent l'otage Sophie Pétronin. Et son parcours à cet homme est une défaite. Car ce djihadiste fut d'abord un guerriero romantique qui récitait des poèmes et parrainait un groupe de musiciens. Eh bien, cet amoureux du tendé, le tambour et des courses de chameaux a été converti à l'islam radical et puis à la guerre sainte. Et notre défaite culturelle a précédé la guerre.
Et on parle maintenant de femmes de pouvoir.
Dans l'Obs, encore, une espèce rare, les femmes de pouvoir, dans les médias, déterminées mais peu nombreuses et qui ressentent parfois vraiment, la condescendance des hommes. Ils nous prennent pour des gourdes, résume ainsi Céline Pigalle, qui dirige la rédaction de BFM TV. Pigalle qui raconte aussi que jeune maman, elle ne parlait pas de ses enfants, elle ne voulait pas risquer qu'ils puissent être utilisés contre elle. Ce sont donc des petites censures et des humiliations que racontent des femmes que pourtant nul ne saurait humilier. Et c'est raconté dans l'Obs, dont la direction, tiens, est féminine. Et je suis en train d'en parler sur France Inter, dont la direction, tiens donc, est aussi féminine, car Laurence Bloch est dans l'Obs. Elle est aussi dans les échos pour parler de nos projets. Ce n'est pas le lieu d'en discuter. Au fait, si j'en parle sur France Inter, j'en parle donc sur Radio France, qui peut-être demain sera aussi à direction féminine, car je découvre dans Libération de l'opinion qu'une femme, Sybille Veil, actuellement directrice des opérations et finances de Radio France, est favorite pour succéder au démissionné Mathieu Gallet, elle ou bien quand même un homme, Laurent Guimier, secrétaire général de la maison. Un tandem donc, mais Sybille Veil, dit Libé, coche beaucoup de cases, une haut fonctionnaire, passée par l'Élysée, l'assistance publique de Paris, ancienne de la promotion Sangor de l'ENA, celle d'Emmanuel Macron, beaucoup de cases. On s'interroge toujours quand on raconte des histoires de femmes au pouvoir. Sommes-nous en train de parler de femmes ou sommes-nous en train de narrer les plus hautes sphères de la société? Mais nos journaux ne parlent pas que de la vie des puissants. Vous lirez ainsi dans Sud-Ouest la colère des ouvriers de l'usine Ford de Blanquefort. Leurs dirigeants n'ont pas daigné venir au comité d'entreprise alors que l'usine est menacée de fermeture. Ils ont dialogué par visioconférence, ne pas se commettre. Vous lirez dans Hebdo ce que représentent les services publics quand ils sont la dernière chance d'une collectivité. Carpentras s'accroche à son tribunal, Saint-Gérand-de-Vaux dans l'Allier se bat pour sauver son école rurale et des maires à Clamcy dans la Nièvre ont démissionné pour conserver des urgences de nuit pour que leurs administrés ne meurent pas. Voilà ce qu'est le pouvoir en bas de la France. J'en termine. J'ai aimé lire dans La Voix du Nord qu'il n'y a pas que le Salon du Livre de Paris cette semaine, mais aussi dans 22 villes des Hauts-de-France, un festival qui s'appelle « Oh les livres !» Et j'ai aimé découvrir dans ce journal La Voix du Nord, Élise Bretémieux, une patronne. Elle a créé à Saint-Omer sa propre maison d'édition, Les Venterniers. Elle assemble elle-même dans un petit atelier échoppe des livres qu'elle publie sur des coups de cœur. Son best-seller s'appelle « Les gens qui s'aiment ». Il s'est vendu à 500 exemplaires. Je suis allé voir sur la page Facebook des Ventreniers. C'est merveilleux, c'est un livre de mots et d'images. On y lit ceci. « Les gens qui s'aiment partagent des mandarines ».
Merci Claude, c'était la revue de presse. « Les gens qui s'aiment partagent des mandarines ».